Le Mag'Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Olivier Amar, bonjour.
Bonjour Bastien.
Journaliste au Journal des entreprises, c'est vous qui lancez, comme chaque semaine, ce magazine économique. Vous avez décidé de parler d'économie sociale et solidaire avec votre invité Antoine Huchon.
Oui, mais Antoine Huchon. En ce mois de novembre, en effet, c'est le mois de l'ESS, le mois de l'économie sociale solidaire. On sait peu ce que c'est, l'ESS. Pourtant, ça fait partie de notre quotidien. Vous l'avez dit, c'est 10% du PIB en France, 14% des emplois privés, 200 000 structures, 2 400 000 salariés. Antoine Huchon est chargé de communication, d'animation de l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être notre invité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est tout d'abord l'IRESA?
L'IRESA, vous l'avez dit, c'est le réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Ça veut dire qu'on regroupe des structures qui sont juridiquement de, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Environ 150 structures aujourd'hui. Et puis également des adhérents individuels qui peuvent soutenir et vouloir développer l'économie sociale et solidaire en Anjou.
Vous regroupez 150 à peu près acteurs. C'est pas l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Non, on n'est pas une chambre consulaire. Donc c'est vraiment des adhérents qui se reconnaissent dans l'ESS. Donc qui ont déjà la conscience d'en faire partie et qui militent pour le développement de l'économie sociale et solidaire.
Comment vous la définissez, l'économie sociale et solidaire ?
Depuis 2014, on a la chance d'avoir une loi qui définit l'économie sociale et solidaire. Je vais partir de cette loi. Elle repose sur trois principes. Donc, c'est un mode d'entreprendre qui repose sur trois principes qui sont la lucrativité limitée, c'est-à-dire on réfléchit à la richesse qu'on produit, où est-ce qu'elle va, qui sont la démocratie interne, une personne égale une voix au sein des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça désolidarise l'apport en capital, par exemple, du pouvoir. Et puis, l'utilité sociale. Donc l'utilité pour la société ou pour un groupe de personnes.
C'est pas que le secteur du social, loin s'en faut.
Hein. Non, non. 60%, entre 60 et 70% des structures de l'ESS sont de l'action sociale d'une façon générale, mais l'action sociale peut se retrouver dans du privé classique ou dans du public. Donc non, dans économie sociale et solidaire, il y a aussi le mot économie.
Donc en Maine-et-Loire, par exemple, ça peut être la recyclerie des biscottes, j'en ai listé plusieurs. Hein. Au Pont-de-Cé, ça peut être l'entreprise Bouillet-Leroux, c'est une scope industrielle, c'est une des plus grosses de France, il y a 2000 salariés, 450 millions de chiffre d'affaires. La Séguinière, ça peut être le Crédit Mutuel Anjou, ça peut être l'entreprise Empreinte Digitale qui est une scope à Angers. On trouve des points communs à toutes ces structures.
Oui, bien sûr.
Ces trois piliers, justement.
C'est trois grands piliers. Et après, chacun y va pour les valeurs qu'il souhaite, mais c'est vraiment trois leviers d'action qui sont communs à toutes ces structures. Dans une association du type La Ressourcerie des Biscottes, la lucrativité, on se pose pas la question, elle est de toute façon interdite. C'est pas de faire des bénéfices ou de créer de la richesse qui est interdite, c'est bien de la redistribuer entre les personnes qui la font. Et chez Bouillet-Leroux, en tant que scope, les règles de répartition des bénéfices sont très 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 strictes entre et la rémunération du capital arrive en dernier.
Vous l'avez dit, vous avez cité Bouillet-Leroux. Mmh. Bouillet-Leroux, par exemple, il y a effectivement 2000 salariés. Ils sont pas tous adhérents de la scope. Hein.
Non.
Mais néanmoins, c'est une personne, une voix.
Dans les associés, ouais. Les places d'associés sont réservées aux salariés. C'est vraiment le curseur maximum de la participation des salariés à leur entreprise. C'est l'entreprise appartient aux salariés qui le souhaitent, en l'occurrence chez Bouillet-Leroux.
Ça veut dire qu'on peut retrouver des entreprises de l'économie classique qui sont incluses dans l'ESS.
Exactement. En fait, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels elles sont concurrentielles. Je pense aux assurances, par exemple, où on a des assurances privées classiques et des assurances mutualistes. La différence en tant que client va être très, très, peut-être très infime. Le service va être le même. Par contre, derrière, vous pouvez vous engager dans votre assurance mutualiste. Vous pouvez voter à l'Assemblée Générale. Vous savez que la richesse produite va être redistribuée sur le territoire, va être gardée dans le projet. Et ça fait toute la différence pour nous.
Comme c'est très diffus, l'ESS, qui a beaucoup de secteurs d'activité avec des structures très différentes, est-ce que c'est facile à fédérer tous ces acteurs ?
Alors, là où c'est pas simple à fédérer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'économie sociale et solidaire sans le savoir, des sortes de Monsieur Jourdain de l'ESS, parce qu'ils sont avant tout sur leur activité, et s'ils ont choisi un statut coopératif ou associatif, c'est pas forcément pour faire de l'économie sociale et solidaire. Donc là déjà c'est la première différence. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a des acteurs très très différents entre l'association sportive locale et la caisse du Crédit Mutuel. Il y a un monde, et pourtant il y a ces principes là en commun. Donc nous, ce qu'on essaye de fédérer, c'est les structures qui portent ces principes là et qui les défendent et qui en font des leviers en fait d'action.
Il y a beaucoup d'entreprises parmi celles qui font partie de l'ESS qui produisent de la richesse, c'est pas incompatible?
Alors toutes les entreprises produisent de la richesse.
Toutes.
Ne serait-ce que, enfin voilà, les associations employeuses. Vous parliez de la ressourcerie Les Biscottes ou d'Emmaüs, ben produisent de la richesse à partir de vos dons. Ce qui est incompatible, c'est de répartir mal cette richesse. Au sein de l'ESS, vraiment le principe de lucrativité limitée, c'est qu'on limite l'enrichissement personnel. Donc une association peut créer de la richesse, et elle le fait. Elle crée des biens, des services, des emplois, et fait des bénéfices. Les bénéfices sont entièrement réinvestis dans le projet. On se pose la question de la richesse produite.
Mais ça ne s'oppose pas à l'économie qu'on peut appeler traditionnelle ou libérale. Hein. Les deux peuvent travailler ensemble.
Alors, elles travaillent énormément ensemble. Évidemment, les entreprises d'insertion rendent énormément de services aux entreprises classiques, que ce soit dans le secteur industriel ou dans le service. Et puis, après, historiquement, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire a commencé à se créer comme mouvement, puisque ces pratiques-là, en fait, où les gens se rassemblent ensemble pour subvenir à leurs besoins ou pour aller dans le mieux-être, c'est depuis l'homme des cavernes, mais ça a commencé à s'identifier comme ça à partir de la révolution industrielle, donc à partir de l'apparition du capitalisme. Donc il y a vraiment à la fois un positionnement qui est différent et en même temps une complémentarité qui est forte au quotidien pour les entreprises.
Avec aussi des origines très variées, hein, puisque vous avez parlé de la ressourcerie des biscottes, vous avez parlé d'Emmaüs. Il y a des mouvements laïcs, il y a des mouvements chrétiens qui sont à l'origine de l'ESS.
Oui, l'ESS fait un peu la synthèse entre les mouvements ouvriers, anarchistes et communistes et le grand mouvement de la charité chrétienne ou même de la charité religieuse d'une façon générale. On a vraiment, aujourd'hui, l'ESS est issu de ces histoires-là multiples et complexes.
On l'a dit, l'ESS, c'est 10% du PIB en France, c'est 14% des emplois privés. On est dans les mêmes proportions en Maine-et-Loire ?
Un petit peu plus. On est dans l'Ouest d'une façon générale, on est une terre de l'ESS. Ouais, l'histoire veut ça, ouais.
Vous l'avez dit, il y a trois grands principes, démocratie interne, une personne, une voix, lucrativité limitée, utilité sociale. Il y a aussi quelque chose d'important, produire local, consommer local dans beaucoup de cas.
Oui, en fait, de par ces principes-là, de par le fait que la richesse est réinvestie dans les projets qui marchent sur les territoires ou redistribuée aux salariés qui la font fonctionner, c'est une économie qui, en grande majorité, est ancrée localement. Et puis qui se met en réseau. C'est-à-dire que là, clairement, des réseaux de l'économie sociale et solidaire, il y en a un petit peu partout sur le territoire. Et un des objectifs, c'est de multiplier l'impact des structures adhérentes en les faisant coopérer. Donc c'est culturellement très fort.
Avec les principes qu'elle défend, on pourrait penser que l'ESS a le vent en poupe en ce moment ?
Alors oui, elle a le vent en poupe. Hein. Clairement, on a des politiques au niveau européen, au niveau national qui portent aussi ça. Depuis la loi de 2014, on a un cadre juridique qui aide aussi au développement. Elle est aussi évidemment en questionnement continu parce que il y a aussi des pratiques qui sont très anciennes et puis il y a des nouvelles formes qui viennent peut-être la bousculer un petit peu quoi.
Il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui deviennent des sociétés à mission. Est-ce que on est dans l'ESS ou pas ?
Alors, les sociétés à mission, tout comme les politiques RSE, s'occupent d'utilité sociale, d'utilité sociétale. Donc c'est un des piliers de l'ESS, mais il manque les deux autres pour que ça soit de l'ESS. Il manque la démocratie, donc la participation de tous, et puis la lucrativité limitée. Donc c'est pas de l'ESS, c'est un des piliers de l'ESS. Donc c'est une prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, et ça c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'ESS qui se sont saisies de ces outils pour démontrer la pertinence de leur modèle. La Maïf est devenue société à mission il y a peu de temps, par exemple.
Novembre, c'est le mois de l'ESS.
Oui.
Qu'est-ce qu'on y fait ?
Vous pouvez découvrir, il reste encore quelques jours en novembre, vous pouvez découvrir, il y a tout un tas d'événements un peu partout en France, donc parfois des portes ouvertes. Nous, on a fait quelques ateliers ouverts au public, travailler en ESS, entreprendre en ESS, pour essayer de répondre aux questions que se posent les personnes sur cette forme d'économie. Parfois, oui, c'est ça, des visites d'entreprise, tout un tas d'événements un peu partout en France. Tout le mois de novembre.
Et puis, le dimanche 4 décembre, il y aura à la salle athlétiste des Ponts-de-Cé les galeries recyclettes. Qu'est-ce que c'est ? On est aussi dans l'économie sociale et solidaire, on est en plein dedans.
Alors, on est en plein dedans, on est sur l'économie circulaire et solidaire, on dit. Donc, ça veut dire que c'est de l'économie circulaire, mais qui est faite par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Là, ici, à cet endroit-là, sur cet événement-là, on vous invite à venir, évidemment, toutes et tous. C'est un endroit où tous les grands acteurs de l'économie circulaire, les ressourceries, les recycleries, les associations, les zéro déchet, etc., viennent à Athlétis au Pont de Cé le même jour. Et l'idée, en fait, c'est de se dire que notre acte d'achat, il peut avoir un acte effectivement écologique par l'activité, par l'économie circulaire, mais également social, parce que derrière, c'est des emplois d'insertion, c'est de la mutualisation, c'est des impacts sur les territoires.
C'est l'occasion aussi pour le grand public de découvrir l'ESS, j'imagine. Et est-ce qu'il ne va pas aussi s'y rendre en... Vous parliez de M. Jourdain. Est-ce que le grand public, il n'est pas aussi un M. Jourdain de la consommation de l'ESS,
ah, mais...
sans savoir qu'elle est autour de lui au quotidien?
Clairement, oui. Il y a aujourd'hui 2 Français sur 3 qui font partie d'une association, 1 Français sur 3 qui fait partie d'une coopérative. Une mutuelle, je sais, j'ai plus... Mais oui, clairement, on utilise l'ESS au quotidien sans le savoir. La plupart des locaux publics ou privés sont... nettoyés par des personnes en insertion. Oui, nous sommes tous des monsieur Jourdain de l'ESS, clairement.
Est-ce que, juste, moi je me posais la question, est-ce qu'il y a des projections qui sont mises en place au vu de la croissance, pas exponentielle, mais pas loin de l'ESS, est-ce qu'on sait ce que ça va représenter dans 10, 20 ans?
Alors, on ne sait pas, mais on espère. On a une ministre qui est aujourd'hui Marlène Schiappa, depuis le dernier remaniement, qui a dit que l'ESS devrait, selon elle, être la norme. Donc quand on voit le dernier sondage massif qui est sorti sur les volontés des jeunes d'être dans des entreprises solidaires qui donnent du sens, etc. Mmh. Quand on voit tous les débats autour de la participation des salariés aux entreprises, voilà ce qu'on propose comme outil, et il y en a peut-être d'autres à inventer, mais ce qu'on propose aujourd'hui comme outil répond à ces questions-là. Donc on espère effectivement qu'on puisse... se développer encore plus et montrer la pertinence.
Et il est prouvé que ça fonctionne aussi bien dans les entreprises industrielles. On parlait de Bouygues-Leroux tout à l'heure, qui est une véritable réussite industrielle.
Oui. Le chèque déjeuner, c'est une scope. Enfin voilà, la SADEL, bien connue des Angevins, est une scope aussi.
Mais ça interroge la finalité de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Mais la finalité et les modalités. Pas uniquement la finalité.
Merci beaucoup en tout cas Antoine Huchin d'avoir avec été notre plaisir. Invité. On le rappelle, les Galeries Recyclettes, l'événement de l'économie circulaire en Maine-et-Loire, ce sera à Salle Athlétis des Ponce le dimanche 4 décembre prochain.
Antoine Huchin, chargé de réseau et de communication à l'IRESA, qui regroupe donc les acteurs de l'ESS en Anjou. Je rappelle aussi, Olivier, que vous organisez un atelier entreprendre en ESS, ce sera mardi prochain, c'est ouvert à tous, pensez à vous inscrire sur iresa.org. Le reste de l'info éco en Maine-et-Loire, Olivier, on s'intéresse aux nouvelles de Gamecash d'abord.
Oui, spécialiste en jeux vidéo d'occasion, la franchise angevine Gamecash a lancé le 21 novembre sa première campagne de financement participatif avec le concours de la plateforme Tudigo. Gamecash veut pouvoir renforcer l'apport personnel des candidats à la franchise. C'est une première en France sous ce format digital, annonce Philippe Couget, le président de Gamecash. Il veut faire un appel à la communauté des gens qui aiment la marque. La campagne est prévue pour durer jusqu'au 5 janvier 2023. Et puis créé par Yann Pinault à la Jubaudière, il y a 31 ans, le groupe Itensia, qui compte aussi un second site en Maine-et-Loire à Valenjoux. Il emploie aujourd'hui 550 personnes pour un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Il est spécialisé dans les technologies de la communication, collaboration, réseau, sécurité d'entreprise. Il est acteur de la réparation et du reconditionnement de matériel électronique. Il est présent dans plus de 80 pays. L'ambition du groupe, c'est d'atteindre d'ici 2025 un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros avec un effectif de 890 personnes.
Une heure dédiée à l'économie locale avec Bastien Lallier sur RCF Anjou.